Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission, qui s'appelle aussi Radicaux Libres pour la page de l'émission, et c'est sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de plein de choses, et notamment des colonies françaises. Oui, la France est toujours un pays colonial. Cette semaine, l'embrasement de la Nouvelle-Calédonie s'est calmé. Quoique, le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de pété de la rep est allé se faire voir sur place pour déminer le bordel qu'il a lui-même contribué à créer, notamment en permettant la tenue du troisième référendum en 2021, en pleine poussée épidémique de la Covid-29, de la Covid-19. Et du coup, voilà, on peut pas revenir en arrière. Il avait des tons doucereux. Ah, mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Au-delà des commentaires et récupérations politiciennes, les reportages des médias ont permis de montrer la réalité de la ségrégation en Nouvelle-Calédonie. Oui, de la ségrégation. Et utilisons ce mot, puisqu'en fait, c'est la séparation. Et ben là, il y a une ségrégation économique, par exemple, qui existe sur le Caillou, comme on appelle la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances. Pour une population de plus de 270 000 personnes, mais c'est tout, hein, c'est, ouais, une grosse moitié de la Sarthe, la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, on trouve 65 000 personnes se déclarant européens, puisque depuis la fin des années 2000, eh bien, il y a une déclaration, comme par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays, les gens se déclarent appartenir à une communauté. Donc 65 000 personnes, ce qui fait à peu près 20%, se déclarent européens, 111 000 se déclarent kanaks. Et les Calédoniens, qui de fait ne choisissent pas de s'affilier à une communauté particulière ou une autre, ne sont que 5500. Les autres grosses communautés étant dans l'ordre les Wallisiens et Futuniens, ouais, Wallis et Futuna, les Tahitiens et les Indonésiens. À noter que 20 000 habitants indiquent appartenir à plusieurs communautés. Clairement, les Européens sont très minoritaires. Mais ceux qu'on appelle les Caldoches détiennent une grande partie de l'économie du territoire. Une grande partie de cette économie est détenue par ceux qui sont venus envahir le territoire au 19e siècle. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Envahir, et envahir au sens strict, puisque petit à petit, les territoires qui appartenaient aux Kanaks, enfin, qui ne leur appartenaient pas vraiment, puisqu'ils n'ont pas cette idée de terre qui appartient à quelqu'un. La terre, c'est du collectif. Alors là, je vous dirais, les libéraux, ils peuvent pas comprendre ça. Ah non, les libéraux du 19e ne peuvent pas comprendre que la terre, ou n'importe quoi d'ailleurs, n'appartiennent pas à quelqu'un. L'appartenance à des privés, c'est quelque chose de fondamental pour quelqu'un qui est libéral en économie. Oui, bah c'est le côté égoïste du libéral en économie. Donc, de fait, des territoires collectifs, c'est pas compréhensible. Et ces territoires collectifs ont été grignotés petit à petit par les colonisateurs au 19e siècle, aux dépens des populations. Et comme les populations n'étaient pas tout à fait d'accord et qu'elles se révoltaient régulièrement, ont été créées carrément des réserves. Oui, on peut critiquer les réserves qui ont été faites aux États-Unis à propos de ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique. Il est même des intellectuels français pour le faire, mais on les a pas entendus sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, où les Kanaks ont été enfermés dans des territoires dont ils n'avaient pas le droit de sortir. De la même manière, au 19e siècle, par les colons français et européens. Donc, ceux qu'on appelle les Caldoches détiennent une grande partie de l'économie du territoire. Et par exemple, on peut citer quelques familles. Les Balandes, dont le secteur d'activité, c'est l'élevage, la mine. Ah, les mines avec le nickel. Le commerce, avec les magasins Thirier, Décathlon et la Foirefouille. Et là-bas, sur le Caillou, c'est Balandes. Les Balandes font aussi dans le transport maritime et notamment l'exportation du nickel. Il est plus simple d'exporter du nickel que de le miner. Et Balandes, c'est sorti un petit peu du côté minier. On peut aussi citer les Lafleur, connus pour avoir eu une existence politique importante, notamment à la fin du XXe siècle. Les Lafleur qui possèdent tout azimut en Nouvelle-Calédonie, de l'industrie plastique aux chevaux, en passant par des franchises McDonald's. Les Pentecost, qui gèrent une partie importante de la grande distribution, avec les Carrefour et les autres bazars. Et en tout, une dizaine de familles arrivées sur place au 19e siècle, pour la plupart, dorénavant en cheville avec des grands groupes internationaux. Et cette dizaine de familles polarise, comme on dit, l'activité économique de l'archipel. Une économie de rente avec le nickel et des pouvoirs d'achat conséquents, notamment pour les fonctionnaires français qui ont des primes d'éloignement conséquentes. En clair, il y a du pognon à se faire. Ouais, j'ai bu un coup. Les Kanaks et une partie des Océaniens ne sont pas sur ces logiques capitalistes. T'es en train de le dire. Ils revendiquent même une économie de jardinage, alors avec des gros guillemets, hein. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de faire de la production de cultures vivrières sur des terres collectives. C'est pas machin qui fait ses fleurs dans son coin ou machine qui fait pousser deux plants de tomates cerises. Non, non, c'est de quoi se nourrir à l'année. Autant vous dire que le fossé culturel est patent avec les descendants des libéraux en économie partis de métropole pour faire fortune sur le dos des autochtones. Ça s'est pas passé qu'en Nouvelle-Calédonie. Ça s'est passé aussi, et là, avec l'esclavage, dans ce qu'on appelait les îles à sucre, comme par exemple la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe. Cette ségrégation économique se double d'une ségrégation spatiale, fatalement. À Nouméa, qui accueille les deux tiers des habitants, les Océaniens sont au nord, dans les quartiers du nord, et les Européens au sud, dans les quartiers du sud, chacun dans son coin. Et ce qu'ont montré les reportages sur les barrages et les contre-barrages, c'était sûrement pas le but, mais on a pu le voir, eh bien chacun assure qu'il veut bien vivre avec tous les autres, mais de fait, il n'y a pas de vie commune. Il y a des quartiers pour les uns, des quartiers pour les autres, et très très peu de mélange. En plus, dans ces barrages et contre-barrages, chacun assure réagir à l'action de l'autre. Ainsi, les milices de sinistre mémoire en Nouvelle-Calédonie, oui, des gens qui se font buter par des milices d'Européens, eh ben, ça a existé tout au long des années 80. Et les Kanaks vous diraient, bah oui, mais on réagissait à ça, c'est pour ça qu'on tuait aussi des Blancs. Mais, comment dire ça? Quand les Kanaks vont envahir les gendarmeries dans les années 80, l'idée ce n'est pas de tuer des gendarmes, c'est d'occuper le terrain pour dire, nous aussi on veut une existence sur ce territoire. De la même manière, quand ils acceptent avec les accords de Nouméa en 1998 l'autodétermination avec ceux qui sont là depuis très longtemps, ils sont d'accord pour partager en gros leur souveraineté populaire, la souveraineté du territoire, la souveraineté sur le territoire avec ceux qui sont arrivés et qui leur ont pas fait quand même beaucoup de cadeaux, hein. Se faire enfermer dans des réserves, c'est quelque chose de pas très très positif. Eh, ça dure jusqu'en 1944 quand même. Ah bah oui, c'est pas rien. Donc l'histoire là actuellement, elle a une histoire. Cette histoire, ce que l'on voit là, les barrages, etc., ça a une histoire. Donc les milices de sinistre mémoire en Nouvelle-Calédonie ont amené l'érection de barrages, non pas sur les routes, ça ce sont plutôt les indépendantistes qui font les barrages sur les routes, mais plutôt à l'entrée des quartiers. À l'entrée des quartiers, et notamment à l'entrée des quartiers nord de Nouméa, il y a des barrages pour empêcher les caldoches et leurs milices d'entrer. Tout le monde a peur de tout le monde. La confiance n'existe pas entre les communautés qui se côtoient très très peu. Et ce ne sont pas les errements langagiers des chroniqueurs et autres présentateurs de chaînes d'infos qui parlent d'émeutiers quand il s'agit de Kanaks et d'habitants pour désigner les loyalistes armés qui défendent leur colonie. Oui, oui, il y a une importance quand même au fait de dire les choses et la manière dont on le dit. Eh bien, pas de justice, pas de paix, affirme le slogan, qui une fois de plus encore se vérifie, car il est impossible de spolier les terres et les ressources d'une population sans susciter de réaction. Oui, oui, c'est totalement impossible.
J'arrête.
C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le A.
Le A comme autonomie. C'est lorsqu'un groupe de personnes s'organise ensemble sur un même territoire pour vivre leur vie en respectant leur culture, l'environnement et leurs valeurs, en se libérant du contrôle du système du capitalisme et du colonialisme. C'est la violence du système et le terrorisme du gouvernement qui amènent les gens à vouloir leur autonomie. Dans les ZAD, les ZADistes et au Chiapas par exemple, les ZAPATistes sont des exemples d'autonomie. On aurait pu vous parler de la politique réduite à des duels télévisés. Oh là là, le fond importe peu, la forme par contre est primordiale. Cette semaine, de jeunes coqs sont allés se faire voir sur le plateau de France 2 pour montrer leur ambition à tous les passants. Sous couvert de campagne électorale, des élections européennes, le service public a produit un face-à-face entre Jordan Bardella, extrême droite nationaliste, et Gabriel Attal, libéral nationaliste. Ils se sont lancés dans « Ouais, t'as fait ça ». Alors là, du taf et ça à la figure, il y en a eu plein. Et l'autre répondait, c'est celui qui dit qui y est. Et voilà, ça a duré plus d'une heure. Et pourtant, ils sont d'accord sur l'essentiel. Hein. C'est-à-dire le libéralisme économique, le productivisme, l'innovation scientifique qui nous sauvera tous et la place de ressources humaines pour la population qui est là pour produire des richesses pour certains seulement. Il faut vraiment que nous ayons la trempe de prendre nos affaires en main. Hein. Le but de la vie n'est pas le pouvoir d'achat, mais bien le bien-être. Alors en deux mots, hein, je ne parle pas du développement personnel, si libéral. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont 60 ans à eux deux, donc sans réaction de la part du peuple. Ils vont nous bassiner les rouleaux pendant encore deux ou trois générations. Que le service public organise ce genre de face-à-face, c'est déjà quelque chose qui me fait mal. Mais vous savez, au cœur, mais aussi à tout le reste. Mais qu'en plus, il y ait des gens pour le regarder. On aurait pu vous parler de la manifestation contre le choc des savoirs qui a eu lieu samedi 25 mai à 10h au Mans. Mais on n'a pas eu le temps de monter quoi que ce soit. On peut vous dire que les manifestants... Alors les manifestants, ceux qui étaient regroupés étaient à peu près 300. Vous lirez peut-être des chiffres inférieurs dans la presse locale, c'est que s'applique toujours le rabais qui va finir par qu'on va finir par considérer comme un petit peu idéologique quand même. On aurait pu vous parler du rassemblement qui avait lieu samedi 25 mai à 10h30 à la jonction entre la rue de la Mariette et l'avenue Bollée, organisé par le collectif qui refuse l'abattage de plus de 400 arbres pour aménager les chronolignes. Mais bis repetita. Bon, ils étaient une soixantaine, si vous lisez moins, vous savez à quoi vous en tenir. À propos du collectif, on peut quand même vous dire qu'il se réunira lundi 27 mai à 18h à la maison du citoyen-citoyenne, place des Comtes du Maine. On a préféré, encore une fois, vous parler d'un certain Alexandre Grothendieck. Mais qui était... Alors, il n'y avait pas de mais, non. Qui était Alexandre Grothendieck? Voici le titre d'une biographie écrite par Pierre Jouventin, un éthologue qui a travaillé avec Grothendieck à Montpellier. Cette biographie, apparue en janvier 2024 aux éditions Libre et Solidaire. Elle raconte la vie d'un mathématicien qui n'a pas voulu participer à la recherche scientifique parce que tout à coup, il s'est aperçu que ça donnait des billes à l'armée. Comme dit la dernière fois, pour prolonger la lecture de cet ouvrage ou l'introduire, il nous est venu à l'idée de repasser les émissions de la saison 2020-2021 consacrées à ce mathématicien antimilitariste. Et voici la deuxième et dernière partie. Souvenez-vous, nous avions laissé Alexandre Grothendieck, mathématicien hors pair, en 1970, alors qu'il décidait d'abandonner la recherche parce qu'il avait un petit problème avec le financement de ses recherches par l'industrie militaire. De fait, Alexandre Grothendieck, sorti de sa réserve scientifique, du doux rêve de l'objectivité scientifique et de la neutralité de la science tout au long des années 1960. En juillet 1970, au Canada, avec quelques collègues mathématiciens, il tente d'agiter la communauté scientifique au moyen d'une revue d'agitation-propagande intitulée « Survivre ». Moteur de la revue, il y exprime ses idées, dont la principale reste la place de la science et du scientifique dans la vie sociale. Dès le numéro 1 de « Survivre », paru en août 1970, on trouve un article dont le titre est « Sur le divorce entre science et vie, scientifique et population » par Alexandre Grothendieck. Il nous dit « Les réflexions suivantes ont été suscitées par une discussion avec P. Cousis et d'autres collègues pendant le séminaire de mathématiques supérieures à l'Université de Montréal en juillet 1970. Je me borne ici à résumer les principaux points soulevés. Petit a, les savants poursuivent trop souvent leurs travaux sans souci des applications qui peuvent en être faites, qu'elles soient utiles ou nuisibles, et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur la vie quotidienne et l'avenir des hommes. En fait, les deux principales motivations pour les travaux scientifiques sont par ordre d'importance la compétition sociale, le désir d'acquérir ou de défendre une certaine notoriété scientifique, qui est un moyen de prestige social et d'avantage matériel. 2. L'attirance pour la recherche en elle-même, la fascination des problèmes techniques ou théoriques qui se posent. Petit b. À cette indifférence pour les implications pratiques de leurs travaux, la plupart des savants joignent une égale indifférence pour la manière dont les connaissances scientifiques sont diffusées dans les écoles ou par les moyens d'information de masse, même pour celles qui touchent de façon vitale à la vie de chacun de nous, voire à notre survie. Je passe les petits c et petits d pour arriver au petit e. En même temps que s'accentue le divorce entre population et communauté scientifique, le prestige de ces prêtres et grands prêtres, techniciens et savants, se détériore par un juste retour des choses. La méfiance de la population vis-à-vis des scientifiques est particulièrement grande aux USA, mais on en voit également des signes évidents en Europe.
où elle est particulièrement avancée parmi les étudiants. Petit f, il faut en conséquence surmonter l'isolement dans lequel se maintient la communauté scientifique vis-à-vis de la population, tant pour sensibiliser les scientifiques aux implications de leurs travaux et à leurs responsabilités en tant que savants, que pour ouvrir la population à une conception saine et non inhibée de ce qu'est la science, des données qu'elle nous fournit, qui sont d'une importance particulière pour nous, et des options devant lesquelles elle nous place, notamment celles qui touchent à l'équilibre biologique terrestre et la survie de l'espèce. Les moyens suivants ont été évoqués pour parvenir à ce but. Et là, toute une liste de moyens, justement, pour parvenir au but précité. Je resterai sur le premier, changer l'esprit de son enseignement en évitant dans la mesure du possible l'approche formaliste ou puriste vers la science et en prenant toute occasion pour faire sentir les implications pratiques des théories abordées. Sorti de sa tour d'ivoire, Alexandre Grothendieck s'en va vers des préoccupations que l'on retrouve dans son ouvrage de près de 1000 pages non publié intitulé « Récolte et semaille » et presque mot pour mot dans le numéro 6 de « Survivre » au sein de l'article où Alexandre Grothendieck explique comment il est devenu militant. Il ne veut plus être savant pour l'être et souhaite donner du sens à la recherche scientifique et aux scientifiques. Le voilà donc en position de sociologue dans un discours donné au CERN, le Conseil européen de la recherche nucléaire, près de Genève. Ça se passe en janvier 1972. Un discours intitulé « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Il y dit ceci. « La recherche scientifique est un impératif pour obtenir un emploi, lorsqu'on s'est engagé dans cette voie sans savoir d'ailleurs très bien à quoi elle correspondait. Une fois qu'on a son boulot, c'est un impératif pour arriver à monter en grade. Une fois qu'on est monté en grade, à supposer même qu'on soit arrivé au grade supérieur, c'est un impératif pour être considéré comme étant dans la course. » On s'attend à ce que vous produisiez. La production scientifique, comme n'importe quel autre type de production dans la civilisation ambiante, est considérée comme un impératif en soi. Dans tout ceci, la chose remarquable est que, finalement, le contenu de la recherche passe presque entièrement au second plan. Il s'agit de produire un certain nombre de papiers. Dans les cas extrêmes, on va jusqu'à mesurer la productivité des scientifiques au nombre de pages publiées. Dans ces conditions, pour un grand nombre de scientifiques, certainement pour l'écrasante majorité, à l'exception véritablement de quelques-uns qui ont la chance d'avoir, disons, un don exceptionnel ou d'être dans une position sociale et une disposition d'esprit qui leur permettent de s'affranchir de ces sentiments de contrainte, pour la plupart, la recherche scientifique est une véritable contrainte qui tue le plaisir que l'on peut avoir à l'effectuer. Le propos est tranché. Il provient d'un chercheur qui a arrêté de chercher pour ne plus participer à des travaux le liant au militaire ou à toute autre activité nuisible pour l'humain. Donc, une attitude également tranchée. Un peu plus loin, toujours au CERN, on lit ceci. D'autre part, il n'en reste pas moins que lorsque la science nous permet d'avoir un salaire et de subvenir à nos besoins, les liens entre notre travail et la satisfaction de nos besoins sont pratiquement tranchés. Ce sont des liens extrêmement abstraits. Le lien est pratiquement formé par le salaire. Mais nos besoins ne sont pas directement reliés à l'activité que nous exerçons. En fait, c'est cela la chose remarquable. Quand on pose la question « à quoi sert socialement la science ?», pratiquement personne n'est capable de répondre. Les activités scientifiques que nous faisons ne servent à remplir directement aucun de nos besoins, aucun des besoins de nos proches, de gens que nous puissions connaître. Il y a aliénation parfaite entre nous-mêmes et notre travail. Ce n'est pas un phénomène qui soit propre à l'activité scientifique. Je pense que c'est une situation propre à presque toutes les activités professionnelles à l'intérieur de la civilisation industrielle. C'est un des très grands vices de cette civilisation industrielle. Cette civilisation ne lui sied pas, du fait des nuisances qu'elle produit. Ainsi, dans la revue Survivre, dont il est l'un des principaux collaborateurs, de nombreux articles traitent du gaspillage et des conséquences de la vie industrielle. Sous la plume d'Alexandre Grothendieck, on peut, dans le numéro 8 de Survivre, lire un reportage sur une fête de la nature en Bretagne, un véritable plaidoyer pour l'agrobiologie, ce qu'on appelle actuellement l'agriculture bio, contre la malbouffe, pas encore désignée par ce mot. Un plaidoyer également pour les médecines naturelles et douces, ce qui nous renvoie à Ivan Illich par exemple, mais aussi à des querelles qui ont lieu actuellement à propos de vaccins. L'analyse de Survivre et d'Alexandre Grothendieck repose sur la responsabilité de la science dans les dérèglements du monde et de nos sociétés. À cause du scientisme, la population gobe à peu près tout. Dès le numéro 2-3 de Survivre, un numéro double de septembre-octobre 1970, Alexandre Grothendieck s'épanche sur sa participation au Congrès international de mathématiques de Nice. Dans un texte titré « Compte rendu d'un congrès scientifique par un participant récalcitrant ». Récalcitrant mais présent, présent pour subvertir le monde scientifique de l'intérieur. Je cite. Il serait trop long de donner ici un aperçu détaillé des contacts les plus intéressants pris pendant le congrès. Et il faut nous borner à un compte-rendu sommaire des activités de survivre. Dès la séance d'ouverture du congrès, au moment des rapports sur les travaux des lauréats des médailles Fields, nous avons distribué dans l'amphithéâtre un appel de 2 pages sous le titre « Savants et appareils militaires, considérations sur la responsabilité des scientifiques dans le monde d'aujourd'hui » signé par Chevalet, Grothendieck, Segal. Cet appel constituait une sorte d'état préliminaire de l'article « Le savant et l'appareil militaire » paru dans le numéro 1 de Survivre. En même temps que celui-ci, nous avons distribué la 30aine d'exemplaires du numéro 1 dont nous disposions, le gros de l'édition ne nous parvenant que le lendemain et en fin de semaine. Nous avons ainsi distribué en tout, dans les 900 exemplaires de l'édition anglaise et environ 350 de l'édition française. Ces derniers, avec autant d'exemplaires en anglais, étaient distribués le lendemain de l'ouverture du congrès. De cette façon, l'existence et la nature de notre mouvement étaient connues de l'ensemble des congressistes dès les débuts du congrès. La réaction générale de nos collègues à cette distribution de littérature subversive était celle d'une sympathie mêlée de curiosité. Cela était dû sans doute partiellement au fait que certains promoteurs du mouvement Survivre étaient connus au moins de nom par tous nos collègues mathématiciens. Il y a eu très peu de réactions hostiles, 3 ou 4 en tout. N'ayant pas assez d'exemplaires pour tous les congressistes, nous nous sommes efforcés d'en distribuer par priorité aux congressistes jeunes, généralement plus empressés que leurs aînés. De fait, à suivre, le vendredi 4 septembre, à 12h30, a eu lieu, dans le grand amphithéâtre du Palais des Expositions, une discussion publique sur Survivre. Le nombre des participants dépassait nettement nos prévisions. Il était de l'ordre de 300. On avait préparé cette réunion le matin même avec un groupe de sympathisants. Finalement, à la suite de ce congrès, 3 personnes seulement vont intégrer le groupe Survivre. Les résultats modestes, voire peu encourageants, n'empêchent pas Alexandre Grothendieck de tenter plusieurs fois d'amener ses collègues à ouvrir les yeux, tout comme ses élèves, car c'est un adepte du teach-in, c'est-à-dire de l'introduction de questions et débats sur des questions éthiques, notamment dans des cours de sciences. Dans le numéro 9 de Survivre, Alexandre Grothendieck décrit ses déboires sous le titre « Remous ». Au Collège de France, un mathématicien pourra-t-il consacrer une partie de son cours aux questions de la survie ? Il continue en introduction. Bien entendu, il le peut, mais dans l'immédiat, il le fera sous sa propre responsabilité, sans sanction officielle et sans que le fait soit signalé sur les affiches du Collège de France. En l'occurrence, il s'agit de mon propre cours qui aura lieu au Collège de France sous le titre « Théorie de Dieudonné des groupes de Barsotti-Tat ». Il continue en indiquant entre parenthèses « SIC ». Les mercredis, de 10h à 12h30, salle 8, ouverture du cours le mercredi 3 novembre. Les premières séances seront consacrées à la discussion avec la participation de tous les auditeurs intéressés de thèmes non techniques liés par le titre général suivant « Science et technologie dans la crise évolutionniste actuelle, allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Il relate alors une séance du conseil d'administration du Collège de France où le mène son rapport d'activité et sa volonté de recommencer à titiller les neurones de ses collègues et étudiants. Il y a alors, à la fin de ce conseil d'administration, un vote pour savoir s'il aura le droit de faire les 2 parties de ce cours. Je cite « Il y a eu finalement vote séparé, d'abord sur la 2e, puis sur la 1ère partie de mon projet de cours. Résultat. Théorie de Dieudonné des groupes de Barsotti-Tat, 25 oui, 12 non, 6 abstentions, 2 nuls. Science et technologie dans la crise évolutionniste actuelle, allons-nous continuer la recherche scientifique ? 32 non, 9 oui, 1 abstention, 1 nul. Il est remarquable que dans un haut lieu de la science comme le Collège de France, il se soit trouvé 9 voix pour appuyer un sujet de cours brûlant, certes, mais qui rompt avec les traditions académiques fortement enracinées. Cela me semble un signe frappant de l'évolution qui est en train de se faire dans les esprits, y compris dans les sphères qu'on pourrait croire les plus inconditionnellement acquises au scientisme. Je pense qu'avant la discussion et le vote, la plupart des 32 collègues qui ont voté non ont dû être convaincus que tout savant, dans son sens commun, récuserait sans appel une telle rupture avec la tradition, et que ma proposition serait rejetée à l'unanimité par une assemblée uniquement choquée. Nul doute que la discussion et la découverte que 9 de leurs collègues ne partagent pas leur vue pourra être, chez un bon nombre d'entre eux, une parmi les multiples influences qui finiront par les amener à revoir leurs préconceptions scientistes, comme j'y ai été amené moi-même progressivement au cours des 2 années passées. À cet égard, le fait que dans le premier vote consacré à la deuxième partie technique de mon cours, il se soit trouvé 12 noms pour le récuser et 6 abstentions. Alors que, sauf Serre et moi-même, aucun des collègues présents ne pouvait guère avoir la moindre notion de ce que le titre proposé signifiait, me semble le signe d'un véritable désarroi chez nombre de ses collègues. De telles discussions qui font éclater au grand jour certaines contradictions ou incohérences, des préconceptions sous lesquelles nous travaillons habituellement, me semblent un puissant moyen pour faire évoluer les idées et aider à leur renouveau. Il en est particulièrement ainsi lorsque les participants se trouvent dans une situation institutionnelle, disons, où ils sont obligés de prendre position en vue d'une décision concrète. Il me semble que peu sont ceux parmi nous qui n'ont pas l'occasion sous une forme ou une autre de créer de telles situations. Quelle que soit la profession à laquelle ils appartiennent, ils s'apercevront sans doute souvent avec surprise, comme je m'en suis aperçu moi-même, qu'ils sont bien moins isolés qu'ils ne le pensaient. Faites donc l'essai vous-même. Essayez. Voilà son propos. Là où vous êtes, essayez de lutter contre le scientisme et ses mythes. Le scientisme et ses mythes qui sont décrits au début du numéro 9 de Survivre. Le scientisme, c'est d'ailleurs la méthode expérimentale et déductive depuis 400 ans de succès spectaculaire augmente sans cesse son impact sur la vie sociale et quotidienne et par la suite, jusqu'à une date récente, son prestige. En même temps, à travers un processus d'annexion impérialiste qui devrait être analysé de façon plus serrée, la science a créé son idéologie propre ayant plusieurs des caractéristiques d'une nouvelle religion que nous pouvons appeler le scientisme. Voilà la définition qui est donnée par la rédaction de Survivre dans ce numéro 9 qui date d'août-septembre 1971 et qui est le début d'un très long article dans lequel on nous décrit cette nouvelle église universelle, la science. Une religion possédant bien sûr ses credos avec des mythes. Je cite. Mythe 1. Seule la connaissance scientifique est une connaissance véritable et réelle, c'est-à-dire seul ce qui peut être exprimé quantitativement ou être formalisé ou être répété à volonté sous des conditions de laboratoire peut être le contenu d'une connaissance véritable. La connaissance véritable ou réelle, parfois aussi appelée connaissance objective, peut être définie comme une connaissance universelle, valable en tout temps, tout lieu et pour tous, au-delà des sociétés et des formes de culture particulières. S'ajoute à cette description des mythes des commentaires. Voilà le commentaire pour le mythe 1. Les sensations et expériences comme l'amour, l'émotion, la beauté, l'accomplissement ou même l'expérience primaire du plaisir et de la douleur sont rayées du royaume de la connaissance valable, pour autant du moins qu'elles ne sont pas englobées dans une théorie scientifique. Ni Jésus ni Sappho ne savaient rien de l'amour. Ceci restreint la connaissance véritable aux quelques millions de scientifiques de la planète. Les bébés et les enfants n'ont aucune connaissance digne de ce nom, pas plus que quiconque est sans formation scientifique. La connaissance véritable commence avec les derniers semestres de l'éducation universitaire. Une autre conséquence de ce mythe est que, la morale étant objet de connaissance, elle doit être approchée avec la méthodologie scientifique. Ceci conduit à ce que la science devienne le fondement de la morale. La suite renvoie à l'inconnaissance des savants en termes d'humanité, ni réductible à des équations, ni reproductible en laboratoire. Dans le texte, la rédaction de Survivre s'attaque également à la qualité des experts. Ces fameux experts qui servent à justifier l'ensemble des décisions politiques basées sur la science. Le mythe 4, le rôle de l'expert. La connaissance, tant par son développement que par sa transmission par l'enseignement, doit être coupée en de nombreuses tranches ou spécialités. D'abord en larges champs, tels que les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la sociologie, la psychologie, etc., qui sont ensuite subdivisés ad libitum à mesure que la science avance. Pour n'importe quelle question appartenant à un domaine donné, seule l'opinion des experts de ce domaine particulier est pertinente. Si plusieurs domaines sont concernés, seule l'opinion collective des experts de tous ces domaines l'est. Voilà ce qui choque Alexandre Grothendieck et la rédaction de Survivre. Le réductionnisme, essayer d'approcher des phénomènes très complexes comme l'humanité par le biais de petits champs scientifiques. Durant une décennie, Alexandre Grothendieck mettra sa motivation au service de la critique de la science, tentera de retourner à la Terre quand le mouvement communautaire parcourra le pays, puis s'éloignera petit à petit du monde pour explorer plus avant son monde intérieur et finir par laisser de côté cette société qu'il ne reconnaissait pas comme la sienne pour vivre en ermite en Ariège. De par son engagement, Alexandre Grothendieck nous propose de systématiquement nous questionner, de systématiquement tenter de découvrir quelle pourrait bien être l'utilité de nos activités. Et parfois même, de se demander si la parole qui nous est donnée, celle de l'expert, vaut vraiment du simple fait que c'est un ponte dans son domaine d'activité.
Bon, ben, on n'a plus trop de temps pour vous dire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Ben, on va vous dire tout simplement, allez, au revoir.